deuxième partie d'émission où nous allons confronter un Anglais et un Irlandais. Vous comprendrez pourquoi je parle de cet affrontement.
Bon, on va ils vont s'affronter très paisiblement. Donc le premier, l'Anglais, s'appelle Nixon. Le roman s'appelle Cuba Libre. Il est paru à la Série Noire et il est traduit par Samuel Todd. Donc ce Cuba Libre, en fait, c'est une nouvelle enquête de Max Mingus, le flic et détective privé, le flic ou détective privé selon les époques, de Miami, qui a été créé donc par Nixon. On rappellera rapidement que dans le premier épisode, paru à la Série Noire en 2008, qui s'appelait Tonton Clarinette, cela se déroulait à la fin des années 90, essentiellement en Haïti. Mingus était alors détective privé dans le suivant, Voodooland, qui se passe dans les années 80. Mingus est donc flic, son premier métier. Et dans celui-ci, donc Cuba Libre, qui se déroule juste un peu avant et juste un petit peu après la victoire de Barack Obama, la première, il est toujours privé, détective privé donc, mais un privé fatigué qui aimerait bien prendre sa retraite, car les affaires de coucherie cachées dans les hôtels plus ou moins borgnes qui font son gagne-pain ne le font plus guère vibrer.
Ça, c'est une constante des privés américains, même si Nixon est un Anglais.
Voilà. Et il va donc être forcé de bousculer son train-train quotidien, si j'ose dire, puis son travail.
Si c'est des coucheries, ce serait plutôt voilà. Son arrière-train quotidien. Bon, voilà.
Car en fait, en quelques heures, son mentor, Eldon Burns, un vieux flic véreux de la vieille école, mais qui l'a quand même formé, et son ami, son ancien partenaire, Joe Liston, partenaire des dernières années quand il était flic, tous les deux vont se faire assassiner de façon très rapprochée, et tous les deux avec une balle dans les yeux. Des balles tirées par l'arme d'un autre flic, et laquelle arme était censée être enterrée avec le flic depuis des lustres.
Mystère.
Et donc, Max Mingus veut savoir qui les a tués et pourquoi. Alors, les soupçons vont assez vite se porter sur une activiste, une ex-activiste réfugiée à Cuba. Et c'est tout naturellement qu'il va se retrouver à Cuba, qui est l'île, comme ça se passait à Miami, c'est vraiment à quelques encablures, enfin un petit peu plus, de Miami.
Mais nos auditeurs savent leur géographie, ils savent que Cuba est très très près de Miami.
Tout comme Haïti d'ailleurs.
Voilà, qui abrite une très grande communauté d'ailleurs de Cubains. Voilà.
Alors quand je dis évidemment tout naturellement se retrouver à Cuba, c'est pas tout à fait vrai, car je vous rappelle qu'il est toujours interdit pour un États-Unien de se rendre dans l'île qui est quand même guère au large, je vous disais, de la côte de Floride.
L'île castriste.
Voilà, le grand Satan rouge fait encore figure d'épouvantail. Et voilà donc notre Max Mingus. Je rappelle qu'il s'appelle Mingus parce que son père a changé de nom à l'époque parce qu'il adorait le jazz. Et voilà donc Mingus qui débarque seul à Cuba pour retrouver cette femme qui devrait lui donner, qui est soupçonnée, qui au moins lui devrait lui donner quelques renseignements de pourquoi ces meurtres ont eu lieu. Alors après un prologue, comme souvent d'ailleurs, un prologue très percutant, qui met assez vite le lecteur donc, dans l'ambiance, on va coller au basque de l'ex-flic, alcoolique repenti, à la découverte de l'île de Cuba. Et Nixon va nous décrire un pays sous le triple joug de la pauvreté, d'une dictature décatique, dictature qui cache malgré tout son nom, et surtout du blocus américain qui étrangle toute la population depuis plus de 50 ans. Nixon, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends si vous n'avez pas assisté à nos précédentes émissions, est haïtien d'origine. Et on sent bien qu'il a une grande sympathie pour le peuple cubain.
Et peut-être un peu moins pour le peuple américain.
Et on est assez loin, donc, soit des visions angéliques de certains auteurs cubains qui décrivent leur pays comme une île où il fait somme toute bon vivre. Mais il ne décrit pas non plus Cuba comme ce cauchemar permanent que racontent certains autres auteurs exilés en Europe ou aux USA. Il a une phrase qui résume bien, qu'il met dans la bouche de Max Mingus. « Cuba, c'est Miami dans un rétroviseur crasseux. » Bon, ça fait une allusion à toutes les vieilles voitures automobiles américaines qui circulent dans la ville de Cuba.
Et ce volet.
Voilà. Et la force de Nixon, en fait, c'est d'éviter de faire un « que sais-je » sur Cuba avec toute la documentation qu'il a bien évidemment effectuée. Et il met tout ça dans un polar, un thriller. La traque de Vanetta Brown, donc c'est le nom de la femme exilée, la traque donc va se mêler à la lutte des Américains contre les activistes pro-castristes, mais aussi contre les activistes militants des droits de l'homme dans cette Floride super-américaine, en fait, qui voudrait donner des leçons de morale au monde entier. Cuba Libre est un roman moins violent que les précédents Nixon. En fait, Mingus, maintenant, il est proche de la retraite. Il n'est plus donc de la prime jeunesse. Et disons que la sagesse a gagné quelques points. Peut-être les muscles aussi. Il réfléchit donc plus ou plus longtemps avant de faire le coup de poing ou le coup de feu. Mais ce qui n'empêche pas, quand il y en a besoin, il y va quand même. Et je parlais de thriller, car en fait, avant même que Mingus n'atteigne la Havane, il est encore dans son Miami, le lecteur est absolument happé par l'écriture, par tout ce que nous raconte donc Nixon, et il ne pourra lâcher le roman que 500 pages après. Avec, cette fois-ci encore, quelques rebondissements très surprenants, surtout dans un final, en apothéose, qui fait bien évidemment, parce que je vous le disais tout à l'heure, ça se passe au moment de l'élection de Barack Obama.
La première ou la deuxième ?
La première. Donc, évidemment, il met en scène ce clin d'œil à l'histoire, et on se doute bien que cette élection a dû réjouir Nixon au plus haut point. Voilà, vous avez bien compris que j'étais enthousiaste, et en fait, ce nouveau roman, ce nouvel opus, confirme que Nixon est bel et bien devenu l'un des grands du polar...
Alors, on va dire
du
anglais,
polar anglais.
Américain.
Ah non, c'est un anglais, du c'est polar anglais. Et en fait, même pour simplifier, en fait, c'est devenu un des grands du polar, tout court.
Voilà, je voudrais quand même rectifier un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il est un peu moins le peuple américain, je pense que ce n'est pas le peuple américain qu'il n'aime pas, je pense que c'est les exactions successives que s'est permis régulièrement le pouvoir et les gouvernements américains.
Bien sûr, voilà. Je pense qu'il n'a rien contre le peuple américain, bien évidemment, plutôt
alors,
lors de ces divers gouvernements. Peut-être, par contre.
Voilà. Et la musique que l'on va écouter est américaine.
La musique est américaine, est extraite du dernier album d'un petit jeune qui s'appelle Jimi Hendrix.
Ah oui, un petit nouveau qui vient de démarrer.
Nouveau, ouais. Voilà. Bon, certains d'entre vous ont peut-être entendu dire qu'il était mort il y a quelque temps. Effectivement. Mais bon, quand sa famille a besoin d'un petit peu d'argent, elle ressort des fonds de tiroir quelques morceaux inédits. Et puis elle fait un disque, et comme l'avantage avec Hendrix, c'est que même les fonds de tiroir...
Tout est bon dans Hendrix.
Tout est bon. Et bien on va écouter, donc l'album s'appelle People, Hell and Angels, et on va écouter un morceau assez rare de Hendrix, c'est plutôt du rhythm and blues, façon Stax. Et bien écoutez, le saxophoniste, pour info, s'appelle Lonnie Youngblood, c'est lui qui chante aussi.
Thank you.
être obligé de couper un petit peu ces merveilleux sons de guitare et de saxophone. Mais maintenant, Corinne va nous amener peut-être aux États-Unis, en Irlande.
Eh bien, aux deux.
Eh bien, voilà.
Là, on va aller avec l'Irlandais Sam Millar dans son dernier roman, paru il y a quelque temps en Angleterre et aux États-Unis, qui s'appelle On the Brinks. Là encore, un titre non traduit. Brinks, c'est la fameuse société qui achemine les fonds. Nous allons voir pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est paru au Seuil ce mois-ci pour le prix de 21,50 € et c'est traduit par Patrick Reynal. Patrick Reynal qui d'ailleurs a découvert plus ou moins Sam Millar et qui l'a amené.
Et qui avait traduit les précédents.
Les précédents. Et justement, des précédents de Sam Millar, nous avions lu et apprécié Redemption Factory, un roman noir, très noir, peint en rouge chant des abattoirs où se passait son récit. Un roman foisonnant, qui avait été un petit peu un coup de poing pour moi en tout cas. Et entre autres, c'est un roman d'initiation. Et je ne suis pas loin de penser que ce roman, On the Brink, celui dont je vais vous parler, c'est aussi un roman d'initiation. Même si, ou plutôt, parce que ce sont tout simplement les propres souvenirs de Sam Millar que l'écrivain irlandais nous déroule ici d'une façon magistrale. Avant de vous raconter la vie tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, de Sam Millar, j'aimerais vous faire part d'une remarque qui ne m'a pas quittée tout au long de la lecture de ce roman.
Fais-nous part.
Il est en effet tout à fait étonnant, enfin pour moi en tout cas, qu'un homme qui a eu cet itinéraire extraordinaire, qui a vécu ces choses si terribles, ait ce talent d'écriture pour nous le raconter. Ou peut-être d'ailleurs, ceci explique cela, et vice-versa. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous parle donc de la vie de Sam Millar. Or donc, l'écrivain irlandais naît dans une drôle de famille, à Belfast bien sûr. Mère dépressive, père brutal, environnement pauvre, catholique dans un quartier protestant, une grand-mère catho presque intégriste, un grand-père de l'autre côté protestant aussi intégriste. Une première partie qui va planter le décor et qui entame ce qui pourrait être complètement un thriller. Mais la réalité dépasse largement la fiction. Fin d'adolescence, pas encore complètement adulte, Sam Millar, pour le simple fait d'appartenir à une organisation illégale, sans qu'on ait de preuves qu'il ait commis d'exactions, va être condamné à une lourde peine. Et pour subir cette peine, il va être emprisonné à Longkesh. Alors Longkesh, je pense que beaucoup de gens qui se sont intéressés à la guerre en Irlande et aux événements connaissent ce nom de sinistre mémoire. Et Sam Millar va refuser, comme quelques dizaines d'Irlandais emprisonnés dans Longkesh, va refuser de porter l'uniforme anglais. Et il va se retrouver, comme ses camarades, emprisonné au secret, nu, avec pendant des mois une simple couverture comme habit. Ça va être ce qui va s'appeler donc un blanket man, l'homme couverture. Comme il le dit, ça allait être un très long voyage dans la nuit. Les tortures sont incessantes, les humiliations quotidiennes, les punitions terribles, les gardiens et tout le monde ne sait quoi inventer pour les martyriser, pour en fait casser cette sédition, pour casser cette résistance. Mais certains, comme Sam Millar, vont aller jusqu'au bout. Sam Millar ne pliera jamais, ne courbera jamais les chines, même quand les coups pleuvent. C'est vraiment la partie la plus dure du récit. Et surtout parce qu'on pense constamment, il l'évoque d'ailleurs longuement, quand on pense à tous ces Irlandais qui ont résisté à Thatcher jusqu'à la mort. Bobby Sands en tête, évidemment. Troisième partie, si l'on peut dire, sortie de prison, Sam Millar se retrouve aux États-Unis. Et assez rapidement, il va organiser, avec un copain, un casse incroyable. D'ailleurs, d'où le titre du roman, qui s'appelle On the Brinks, puisqu'ils vont aller dévaliser dans un hangar tout l'argent contenu dans les fameux fourgons de la Brinks. Pour dire quand même, c'est le cinquième butin jamais volé aux États-Unis, 7 millions de dollars. Casse incroyable, je disais, avec des armes en plastique et une fourgonnette qui, en gros, ferait passer un vieux bus Volkswagen pour une limousine. C'est malheureusement d'ailleurs ce qui va le faire repérer. Le voici de nouveau dans la case prison. Là encore, des conditions très dures de détention. On va le changer constamment de prison, on va l'empêcher de dormir. Mais je dois dire que les Américains semblent bêtes. Comment penser qu'un survivant de Lancash puisse craquer à ce traitement qui nous paraît pour nous très dur, mais pour quelqu'un qui a subi Lancash, c'est un petit peu moins dur. Il n'avouera donc jamais le hold-up, il ne donnera jamais ses complices, et les 7 millions sont encore en grande partie dans la nature. Sam Millar se retrouve à la case départ, ou en Irlande, où il va commencer à écrire ce récit et où il entame sa énième vie en tant qu'écrivain. Ce récit, c'est un récit plein de fureur, d'une énergie folle, au mot incandescent, des passages qui vont rester longtemps dans notre tête, en particulier la partie à Lancash. Tragédie d'un homme, bien sûr, une tragédie individuelle, mais aussi une part de l'histoire. Ce qui va d'ailleurs un peu alléger cette partie si noire, c'est que l'écrivain irlandais ne se départit jamais de son humour, de sa causticité. C'est d'ailleurs peut-être aussi ça qui l'a sauvé à l'époque. Et cette ironie, ça va permettre de pas... Il ne se prend pas pour un héros quand il résiste aux conditions. Et ça, c'est un des grands atouts de ce récit. Au début de chaque chapitre, Millar convoque les plus grands écrivains ou témoins de leur temps. Mandela, dont on sait qu'il a lui aussi été emprisonné dans des conditions très dures. On a Nietzsche, Shakespeare, Yeats, Beckett, mais aussi par exemple Bruce Springsteen, mais aussi des philosophes grecs. C'est peut-être pour nous montrer aussi l'universalité de ses propos. D'abord, l'inanité des pouvoirs, mais aussi la veulerie des petits chefs qui profitent de leur position pour assouvir leurs plus bas instincts, peut-être, surtout, et avant tout, les détours des vies, les détours des destins qui forgent une vie comme celle de Sam Millar. Il ne doit pas y en avoir beaucoup comme ça, mais quelques-uns. Voilà, en tout cas, un roman exceptionnel, ça je tiens à ce qualificatif. Je rappelle que ça s'appelle On the Brinks, c'est paru au Seuil, et c'est de Sam Millar, dont on attend très vite de nouveaux romans. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. Jacques, on va maintenant attendre 15 jours avant de vous reparler de bons romans, et on va vous dire, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Au revoir.
Donc il y aura 3 minutes de...